Voilà, donc il est avec nous en esprit, il salue tout le monde. Et donc j'aurai à la fois la tristesse et le plaisir de lire ces textes à sa place. Donc, je vais commencer par une présentation des rencontres, une présentation en 5 points. Je vais commencer par des remerciements. Alors évidemment, je remercie Kenneth White, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Et tout cela remonte, comme beaucoup parmi vous le savent déjà, à très longtemps, avec une œuvre conséquente. Je remercie les membres de l'Institut, dont la fidélité est un soutien, les personnes qui se sont mobilisées pour organiser ces rencontres, notamment dans l'Institut, Yves Legrand, Stéphane Bijard, je rajouterai Emmanuel Dallaglio, ceux qui nous ont aidés financièrement à porter ce projet, les éditions Léal Torres, vous découvrirez un de leurs livres dans la journée, les artistes qui contribuent à ces journées, avec par ordre alphabétique Bernard Alligan, Lionel Marchetti, Dominique Rousseau et Marie-Claude White, je vous les présenterai, ainsi que Elisabeth Poulet et Frédéric Faure, comédiennes et comédiens qui nous liront des extraits de textes sur les 4 demi-journées. Je remercie également nos partenaires, la librairie Gualarne de Lannion et les éditions Isolato de Nancy, qui est un des principaux éditeurs de géopoétique, le personnel du Sémaphore pour son accueil et vous tous qui êtes là aujourd'hui et j'espère qu'y reviendrez demain. Voilà pour le premier point. Alors, je vais vous faire ce qui était un peu une gageure, une présentation en quelques minutes de l'œuvre de Kenneth White. En 6 points. Alors, cette œuvre, c'est une œuvre ancienne. Elle se déploie depuis les années 60 et Kenneth White a très tôt été reconnu comme un poète qui allait conter et apporter un accent de nouveauté, c'est l'expression d'André Breton. Apporter un accent de nouveauté dans la littérature et même au-delà. C'est une œuvre qui est toujours en cours, avec plusieurs livres par an. C'est une œuvre éditée par de nombreux éditeurs sur les décennies, grands, moyens, petits éditeurs, éditeurs artisanaux. Kenneth White a diversifié ses éditeurs aussi pour soutenir de petits éditeurs courageux. Deuxième point. L'œuvre de Kenneth White, c'est une œuvre reconnue. Elle était récompensée par de nombreux prix, pour des ouvrages en particulier ou pour l'œuvre dans son ensemble. Je citerai le prix Édouard Glissant, le prix Roger Caillois, le prix du rayonnement de la langue et de la littérature française de l'Académie française, le prix Brace, le prix Grinzane Biamonti. C'est une œuvre reconnue au niveau universitaire, de nombreux colloques nationaux ou internationaux se sont tenus sur l'œuvre de Kenneth White. Il y a eu des thèses, des livres consacrés à Kenneth White, et c'est une œuvre traduite en 10 langues. En ce moment, cette année est sortie encore une traduction en polonais. Au Brésil et au Chili, des gens s'activent pour traduire différents ouvrages. Troisième point. L'œuvre de Kenneth White, c'est ce qu'on peut appeler une œuvre complète. Alors, la notion d'œuvre complète, un de mes camarades y reviendra demain, Stéphane Bijard. Mais là, je vais citer ce que dit Friedrich Schlegel sur ce qu'est une œuvre complète. Une œuvre est complète, dit-il, quand elle est partout, parfaitement délimitée, mais en même temps illimitée et inépuisable. Il faut qu'elle ait voyagé à travers les 3 ou 4 continents de l'humanité. Non pour limer les angles de l'individualité de l'auteur, mais pour élargir sa vision, donner à son esprit plus de liberté, de pluralité interne, et par là même plus d'autonomie. Quatrième caractéristique de l'œuvre de Kenneth White, c'est une œuvre énorme. Alors énorme en quantité, il y a un grand nombre d'ouvrages, des essais, des récits, de la poésie, des articles, des conférences, des entretiens. Stéphane Bijard nous en parlera demain. Donc, c'est une œuvre énorme en quantité, mais une œuvre énorme aussi dans le sens de hors norme, parce qu'elle dépasse la littérature, notamment. Cinquième élément, cinquième point, c'est une œuvre inspirante. Des artistes, des auteurs, des scientifiques y ont trouvé, y trouvent encore, et y trouveront de quoi repenser leur rapport au monde. Et je pense que c'est globalement pour cette raison que nous sommes là. C'est une œuvre inspirante sur le plan artistique. Kenneth White a réalisé une centaine de livres d'artistes en collaboration. Vous aurez l'occasion d'en voir quelques-uns dans les pauses qui sont prévues. On pourrait y revenir, je vous présenterai ça tout à l'heure. Avec des artistes de tous horizons et des artistes souvent de renommée internationale. C'est une œuvre inspirante parce que, au-delà du seul constat, alors un constat de société, de civilisation, constat écologique, Kenneth White est descendu jusqu'aux racines. C'est pour ça qu'on peut l'appeler un radical. Je reviendrai sur cette notion de radicalité. Il est descendu jusqu'aux racines avec une méthode. Cette méthode, c'est le nomadisme intellectuel, qui débouche sur une théorie pratique, la géopoétique. Dernier point, qui est à la fois la caractéristique de l'œuvre et de l'homme, c'est une œuvre libre et fondatrice. Dans son autobiographie, Entre deux mondes, il évoque évidemment son passage entre la Grande-Bretagne et la France, mais ses allées et venues, parfois un peu chaotiques, entre l'intérieur et l'extérieur de l'université. L'itinéraire de White est un itinéraire marqué par la liberté de vivre, la liberté de penser. C'est quelqu'un qui n'a pas cherché à plaire, mais qui est resté fidèle à ses intuitions premières, des intuitions qui ont été nourries tout au long de son chemin de vie, son chemin de création, par la réflexion. C'est une œuvre fondatrice parce que Kenneth White, depuis sa jeunesse, a fondé des groupes, depuis le Jargon Group jusqu'à l'Institut international de géopoétique, parce que malgré une grande lucidité sur l'état du monde, il reste, c'est l'épithète qu'il utilise, possibiliste. Pas de pessimisme, pas d'optimisme béat, possibiliste. On se met au travail et on voit ce qu'on peut faire. Troisième point, je viens de vous parler de l'Institut international de géopoétique. Eh bien, je vais vous le présenter. Merci. Donc, l'Institut international de géopoétique a été fondé en 1989. Nous avons un site internet en 8 langues, comme vous pouvez le voir ici. Petite présentation de l'Institut, elle date de 1989, que je vais lire pour vous. Si, vers 1978, a écrit Kenneth White, j'ai commencé à parler de géopoétique, c'est d'une part parce que la Terre, la biosphère, était de toute évidence de plus en plus menacée et qu'il fallait s'en préoccuper d'une manière à la fois profonde et efficace. D'autre part, parce qu'il m'était toujours apparu que la poétique la plus riche venait d'un contact avec la Terre, d'une plongée dans l'espace biosphérique, d'une tentative pour lire les lignes du monde. Depuis, le mot a été repris, ici et là, dans des contextes divers. Le moment, écrivait-il donc en 1989, le moment est venu de concentrer ces courants d'énergie dans un champ unitaire. C'est pour cela que nous avons fondé l'Institut de géopoétique. Alors cet institut, qui existe donc depuis 1989, a connu différentes étapes dans son développement. En 1994, il y a eu ce qui a été appelé l'archipélisation avec la création qui s'était étalée déjà depuis le début de la fondation de l'Institut, donc en 1989, la création dans diverses parties de France, d'Europe et du monde de groupes, de centres, d'ateliers, les noms ont pu varier, géopoétiques, qui ont pu apparaître, rester en vie selon l'activité et les déplacements de ces membres quelque temps. D'autres existent depuis longtemps. Donc cette archipélisation a permis à des, c'est l'esprit de l'Institut, que les différents individus qui se sont constitués en groupe puissent non pas appliquer une théorie qui viendrait du haut et qui doit s'appliquer sur les contextes locaux, mais partir des contextes locaux, une adaptation de la théorie géopolitique à, pour les uns, alors on peut faire un petit tour de certains centres. Commençons par celui d'Écosse, Centre écossais de géopolitique. Donc ce centre, entre autres, a une activité assez grande dans le militantisme, notamment le militantisme écologique, mais pas uniquement. Il organise depuis longtemps des activités culturelles, des lectures. Prenons le centre chilien, qui est essentiellement en deux groupes. Un groupe situé autour de Santiago et un autre autour de Puerto Aysén, en Patagonie. Autour de Santiago, ce sont des gens qui s'intéressent essentiellement à l'architecture, avec des réalisations reconnues internationalement. Autour de la Patagonie, c'est essentiellement le rapport avec les peuples premiers d'Amérique du Sud et la façon dont ils ont été traités dans la société chilienne, et à partir de la géopolitique, trouver non seulement un mode de coexistence, mais un mode de création qui puisse, et c'est bien le but aussi de la géopolitique, trouver une fondation pour tout le monde, quelle que soit son origine et quelle que soit son origine géographique également. Prenons encore un ou deux. L'atelier géopolitique des marges, dont nous avons un des membres ici aujourd'hui, c'est Sylvie Barrel, qui œuvre depuis Bora, donc en plein océan, je laisserai bien parler Cécile à l'occasion, qui œuvre à comprendre ce qu'est, alors on en parlera un petit peu après, l'océanisation, le fait de se retrouver dans un espace, à habiter un espace restreint et dans un espace ouvert à tout l'océan. Et enfin, puisque c'est le dernier en date, qui a rejoint l'Institut, le groupe de recherche en géopolitique de Bahia, dont nous avons aussi un membre, Lirandina Gomez, qui travaille sur la ville et la géopolitique. Bon, je voyais tout ça, ça demande une exploration patiente. Ce sont le site, vous le trouverez facilement. C'est uniquement pour vous donner un aperçu de la diversité des centres. Il y a des centres qui naissent, qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, des gens qui passent d'un centre à un autre. Voilà. Merci. Donc, la troisième étape du développement de l'Institut, ça a été nommé l'océanisation. Alors, dans son texte de 1989, Kenneth White évoquait la reprise de la notion de géopolitique, qui pouvait parfois être problématique. Depuis, le succès de la géopoétique a fait que le mot a été repris un peu à tort et à travers, dans des contextes variés qui perdent souvent de but, le but du regard. Il a été décidé que, ne pouvant plus contrôler quoi que ce soit sur l'utilisation du mot, on a considéré que on allait laisser l'utilisation du mot et que on se reconcentrait sur notre travail à l'Institut, l'Institut étant le garant on va dire, de la force de l'idée et de la théorie. Donc, dans cette idée, on a aussi développé sur notre site internet des ressources, un dictionnaire de géopoétique, des enregistrements audio et des vidéos, des articles, une lettre d'information qui s'appelle l'Océanite. Il y a eu dans l'histoire de l'Institut différents bulletins et l'Océanite est le dernier en date, et une section pour devenir membre. Voilà. Sur ces 2 journées, si vous avez des questions sur l'Institut, son fonctionnement, etc., vous trouverez suffisamment de membres pour discuter avec eux, dont les gens qui vont intervenir. Je passe à la présentation des rencontres elles-mêmes. Normalement, enfin, j'espère que vous avez tous sous les yeux le programme. Donc, comme vous l'avez vu, ce programme est constitué de 2 journées et de 2 thématiques. Voyager, habiter. Alors, c'est l'espace que l'on parcourt, l'espace que l'on habite, un espace physique, mais aussi un espace mental. Entre samedi et dimanche, samedi voyager, dimanche habiter, il y aura évidemment des allers-retours. C'est pas séparé de façon stricte. Ce samedi, alors on a commencé avec un petit peu de retard, mais c'est pas inhabituel dans les événements de cet ordre. À 10h30, je vais reprendre les horaires qui sont affichés sur le programme. La conférence de Kenneth White, Sortir du labyrinthe, mais vous verrez ce que Kenneth White appelle le labyrinthe, c'est en fait le schéma central d'une civilisation où on a souvent la conviction de tourner en rond dans un contexte restreint, sans autre perspective que de tourner en rond, à part quelques moments délimités où on a l'impression d'exister enfin pour soi. Donc, dans cette première présentation, il passera à travers plusieurs civilisations depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et il examine la notion de fête et de vacances en proposant d'autres expériences de l'espace et du temps. Après cette conférence, donc que je lirai, Elisabeth Poulet fera la lecture de Borderland, ou La mouvance des marges, un livre tout à fait singulier, un livre drôle, déconcertant et profond à la fois, qui explore les marges de la pensée, un livre qu'on pourrait dire de résistance rieuse et de sagesse salée. Kenneth White y suggère une lointaine possibilité, possibilisme, hein, comme je vous le disais, pour sortir de l'aliénation totale. Vous connaissez le plateau de l'Albatros, probablement, c'est l'introduction à la géopolitique et aussi au large de l'histoire, qui est une analyse clairvoyante de l'état du monde et une cartographie d'une ouverture possible. Eh bien, Borderland est une sorte d'extension de ces essais, plus ancrée dans l'actualité et dans l'environnement immédiat. Après cette lecture, à mi-journée, vous aurez la possibilité d'accéder au foyer pour voir les expositions d'art géopoétique. Je vous présenterai les artistes tout à l'heure. Cet après-midi, à partir de 13h30, c'est la partie des rencontres consacrées au Japon, c'est-à-dire le Japon de Kenneth White, avec d'abord une présentation de la réédition en livre rare. Vous verrez pourquoi c'est un livre rare. C'est une présentation en livre rare du récit emblématique de la géopoétique, Les Cygnes sauvages. C'est Bruno Bonabri Duval, de l'Imprimerie nationale, qui fera cette présentation et nous présenterons un petit film de François Goizet sur la fabrication de ce livre. Ensuite, je ferai une conférence pour présenter l'œuvre Les Cygnes sauvages dans son rapport au Japon et à son esthétique sur les traces du poète Basho. Puis, dernière séquence de cette partie consacrée au Japon, un film, diffuseront un film de François Reichenbach, Japon, les chemins du Nord profond, assez rarement diffusé, qui est écrit et interprété par Kenneth White sur le chemin du Hokkaido et des cygnes sauvages. À 15h30, Frédéric Faure nous lira des poèmes de Kenneth White, de son premier à son dernier recueil, des poèmes qui parlent d'un grand rivage et d'un monde ouvert, qui nous parlent d'habiter pleinement un lieu ici ou ailleurs, qui nous parlent de dérive, de leçons du vent, de la recherche physique et mentale jamais interrompue d'une vie et d'une pensée fraîche et commençante. La poésie de Kenneth White, c'est pas une poésie du moi, c'est pas une poésie autour des sentiments, des émotions, même s'il y en a. Ça n'est pas une poésie du mot, autour des jeux verbaux, mais une poésie du monde où tous les éléments du monde, quels qu'ils soient, ont leur mot à dire. C'est une poésie qui sait être fulgurante, évidente et simple comme un haïku. Elle sait aussi parcourir longuement les espaces terraqués et ceux de l'esprit. Elle sait nous redonner le goût du monde, un monde à redécouvrir et à aimer. C'est une poésie qui retrouve pleinement, à sa façon, la phrase de Hölderlin appelant à habiter poétiquement la terre. Cela fait de Kenneth White un poète majeur de la post-histoire. À 16h, à nouveau une pause qui vous permettra de retourner voir les œuvres qui vous avaient ébloui dans le foyer. Et à 16h30, je ferai une conférence sur justement la forme du monde. Une conférence qui a pour titre Une tectonique de la Terre, géologie et géopoétique. Alors, je ferai une approche du monde dans sa dimension première, celle de support, c'est ce qui nous porte hein, tout le temps, de support et d'espace de vie. C'est une approche de la géologie qui n'est pas réservée aux spécialistes. Je vous présenterai dans un premier temps le rôle de la géologie dans la vision historique et même post-historique de l'espèce humaine, à quel point elle a influé sur notre représentation de l'espèce humaine. Dans un deuxième temps, je ferai une approche, une définition de la notion géopoétique de tectonique de la Terre qui figure dans le titre. Puis, dernière partie, je présenterai le chemin que la géopoétique peut proposer pour une métamorphose du monde. Après cette conférence, Frédéric Faure nous lira à nouveau des poèmes. Cette fois-ci, ce seront les miens. Il y sera question de lieux sauvages, de lieux naturels tels qu'il en reste. Il sera question de l'Écosse, de l'Islande, de l'Afrique, du Venezuela, des espaces où le corps-esprit rencontre la Terre, des espaces où se mène la recherche des lignes de la Terre. Alors, cette lecture fera une transition entre une séquence géologique qui a été commencée par la conférence précédente et une séquence océanique en soirée avec le concert, j'en reparlerai. Donc, ces lectures seront autour de deux œuvres, Planctos et Gondawana. Alors avec Planctos, il y a une évocation des Hébrides extérieures, ces îles du nord-ouest de l'Écosse, une évocation de l'Islande et enfin une évocation de l'océan mondial à toutes les échelles, du plancton aux baleines, une évocation de sa vie, de ses flux et une évocation des zones blanches de l'esprit. Mon but dans ces œuvres, ça a été de rendre la multiplicité, l'étrangeté, la beauté, de trouver la poétique de cet espace océanique, de ces êtres aussi, autrement dit leur géopoétique. Le deuxième recueil, Gondawana, parle de l'épopée de l'espèce humaine depuis ses origines, il y a quelques millions d'années, jusqu'à nos jours, dans son rapport toujours étroit aux lieux marins et terrestres, aux lieux vivants qui les ont peuplés, les peuples encore parfois. Il s'agit d'une exploration physique et mentale contemporaine également de plusieurs régions de l'ancienne province géologique du Gondwana. La province s'appelait le Gondwana et auquel j'ai rajouté un A, ce A du Gondwana, ce A de l'origine et des nouveaux commencements qui apparaît au cœur du titre. Donc cette exploration physique contemporaine donne à ces vers la force d'une expérience intensément vécue, au contact des éléments du monde naturel et des peuples, à la recherche d'un ordre anarcho-archaïque le plus riche possible pour ouvrir et fonder un monde. De 18h30 à 20h, nous ferons une pause. Et en soirée, à partir de 20h et pour 1 heure, nous aurons un concert de Lionel Marchetti, dont le titre est Planctos. Ce n'est pas une coïncidence. Cette œuvre de près de 4 heures, on en aura des extraits, a été inspirée par le dernier long poème de mon recueil, Planctos. Planctos, je rappelle, signifie en grec la notion de dérive. Lionel Marchetti est un artiste, un musicien de musique concrète et acousmatique. Concrète parce qu'elle travaille avec des sons et non avec des notes. Je fais une présentation rapide, de ces notions. Et acousmatique parce qu'en privant les auditeurs, d'une source visuelle, il n'y a pas d'instrument visible, elle crée une réponse imageante et sensible dans l'esprit. C'est ça l'effet.
La musique est souvent perçue comme un art du temps. Avec Lionel Marchetti, on peut dire que c'est un art de l'espace également. D'autant plus qu'il est un des spécialistes de la spatialisation du son projeté, comme vous vous en rendrez compte ce soir lors du concert. Sa devise empruntée à Kenneth White est la suivante. Concret ou abstrait? J'aime l'abstrait où subsiste un souvenir de substance, le concret qui s'affine aux frontières du vide. Alors, cette longue œuvre musicale qu'est Planctos dépasse l'imaginaire du musicien et ne propose pas un jeu sonore formel, mais donne à entendre un monde dont la réalité nous échappe pour une large part. Grâce à l'étonnante capacité qu'ont les sons de faire image, Lionel Marchetti nous donne à voir, autrement qu'avec des mots, l'océan et les êtres qui évoluent. Alors la question qu'on peut se poser, c'est dans quelles ressources instinctives du cerveau de l'auditeur puiser pour faire sentir presque physiquement l'étendue, la profondeur et les degrés d'obscurité des mers. De quelle manière rendre notre proximité biologique avec les mammifères marins, l'étrangeté des invertébrés les plus étonnants? Et comment faire, surtout, pour que cette œuvre ne soit pas qu'une exploration musicale même inouïe de l'univers océanique, de son espace et de ses êtres, mais l'invitation à une aventure mentale qui interroge l'origine de la vie, l'histoire et la diversité du vivant, l'espace terrestre où nous vivons et notre rapport à tout cela. Alors, ce soir, pour le concert, sur les 19 morceaux de cette longue œuvre, nous en avons choisi 4, dont je vous donne les titres. Il s'agira de Balane sur le dos de la baleine, Anarchiste du chaos, L'inconnu du monde aval, et enfin Nuée de Diatomée. Avec le concert s'achèvera la première journée de nos rencontres et nous nous retrouverons dimanche matin à 10h avec une présentation du film Kenneth White du nomadisme à la géopoétique par Emmanuel Dallaglio qui a écrit le film et qui l'a fait réaliser. Donc ce film présente la rencontre entre Emmanuel Dallaglio et Kenneth White, où ce dernier pose comme toujours des questions fondamentales, et il rend notamment sensible le fait que le nomadisme intellectuel et la géopoétique forment un continuum. À 11h, nous retrouverons pour une conférence Stéphane Bijard, qui est un bibliophile passionné depuis 35 ans par l'œuvre de Kenneth White, qui nous posera la question: qu'est-ce qu'une œuvre complète? Alors, il nous exposera le fait qu'une bibliothèque est vue comme un lieu de prédilection, un lieu de travail, de loisirs, et le creuset de la construction d'une œuvre complète. Il exposera cette interrogation: que veut dire être bibliophile de nos jours? Et il s'appuiera sur l'exemple de sa collection sur Kenneth White, qui comporte plus de 400 ouvrages, documents et revues, avant de s'interroger sur ce que représente aujourd'hui l'œuvre complète de Kenneth White. À la fin de la matinée, nous aurons donc une pause entre 12 et 14 heures. Et à 14 heures, j'aurai le plaisir de revenir vous faire une conférence intitulée La maison et le monde, écologie et géopoétique. Alors, pour comprendre les rapports entre écologie et géopolitique qui sont souvent évoqués l'une avec l'autre, je reviendrai sur l'origine de la sédentarisation de notre espèce. Je poserai la question, quelle maison au pluriel habite l'humanité, sachant qu'il ne s'agira pas uniquement de maisons bâties en dur. Quelles sont les conséquences de ces habitats sur notre vision du monde? Et enfin, comment la géopolitique peut-elle nous réconcilier avec le monde? Après cette conférence, à 15 h, Elisabeth Poulet lira des extraits de La Maison des Marais. Alors, La Maison des Marais, comme vous le savez probablement, c'est un staybook, un livre de la résidence, à l'instar des Lettres de Gourgounel, écrites en Ardèche. C'est un livre donc consacré à l'installation et à la vie des White à Trébordin, qui nous présente, avec l'humour caractéristique de Kenneth White, qui nous présente Trébordin comme un exemple de localité ouverte au monde par cercles concentriques. Après cette lecture, à 16 h, la conférence de Kenneth White, Une habitation atlantique, qu'en son absence, je lirai. Alors, si une grande partie du travail de Kenneth White a consisté à voyager à travers des territoires de la planète, il a toujours été à la recherche de lieux particuliers où concentrer toutes les ressources de son esprit. Ici, dans cette conférence, il en évoquera deux. D'abord, une vieille bâtisse isolée en Ardèche où il a vécu dans les années 60 et où il a écrit son premier livre, Lettres de Gourgounel, une déclaration d'indépendance et de ressourcement. Ensuite, sa maison actuelle sur la côte nord de la Bretagne, la Maison des Marais, où il a composé des essais, des récits et de la poésie, où il a composé donc l'essentiel de son œuvre immense qui, à bas bruit, a essaimé à travers le monde. Voilà donc pour le programme de ces 2 journées. Je vais revenir sur les éléments que j'ai évoqués et qui seront accessibles pendant les pauses, à savoir ce que vous pourrez trouver dans le hall d'entrée, un point librairie en partenariat avec la librairie Gualarne de Lannion et l'éditeur libraire de Nancy, Isolato. Donc, à l'entrée, vous aurez l'occasion de pouvoir acheter la plupart des livres qui auront été mentionnés ce week-end et nous aurons donc 2 principaux éditeurs de géopolitique, Le Mot et le Reste, de nombreux livres de cet éditeur de Marseille et avec la présence physique de l'éditeur Isolato de Nancy. Dans le foyer qui est attenant à la salle des conférences, vous aurez l'occasion de lire, de découvrir une exposition, Le Monde ouvert de Kenneth White, qui résume en une douzaine de panneaux illustrés son itinéraire hors normes. Pour ce qui concerne les artistes exposés, dont j'ai rapidement parlé tout à l'heure, par ordre alphabétique, donc, vous aurez l'occasion de découvrir les œuvres de Bernard Alligan, qui est peintre, graveur et qui a réalisé de nombreux livres d'artistes avec de multiples auteurs. Et parmi ces auteurs, on peut signaler 4 collaborations avec Kenneth White. Donc, et les 4 livres d'artistes, nous les exposons pour vous ce week-end. Ils ont pour titre qui correspondent à des poèmes du dernier recueil de Kenneth White, Mémorial de la Terre Océane. En Scandinavie, Le Grand Rassemblement à Geographic Harbour, Les Derniers Jours d'Audubon, L'Itinéraire du Cap le 4. En plus de ses livres d'artistes, il expose 4 toiles de la série Retour d'Islande, des toiles qui sont composées à partir d'éléments du sol récoltés sur place, essentiellement du sable basaltique. L'autre artiste avec lequel Kenneth White a beaucoup collaboré, c'est Dominique Rousseau. Je vous livre ce que Kenneth White a écrit du travail de Dominique Rousseau. Il est, ce travail, dit-il, profondément textonique. Il est plongé dans la matière du monde. Je pense à ce qu'il appelle, non pas modestement, mais basiquement, fondamentalement, ses papiers. Ces papiers, qu'il fabrique lui-même, sont imprégnés de matières diverses, cueillies dans différentes régions du monde. Forêts humides, savanes, plages. Par la suite, grâce à une technique complexe, à des gestes à la fois fluides et contrôlés, précises et aléatoires, le papier de base devient paysage. Alors en effet, Kenneth White et Dominique Rousseau ont réalisé de nombreux livres d'artistes, une vingtaine, et nous en exposons quatre ici, dont les noms sont L'île de la Tortue, Okeanos, Mémoire de la mer Érythrée et Un Éden océanique. Le dernier artiste exposé, c'est Marie-Claude White. Alors, Marie-Claude White est traductrice, nous y reviendrons, et photographe. Son art photographique a les caractéristiques suivantes. C'est un art qui est inspiré par les peintures chinoises de paysage, un art qui est à la recherche des lignes du monde. On y sent une puissance d'abstraction liée à un grand pouvoir de pénétration. Elle pratique dans sa photographie ce qu'elle appelle la non-intervention, je la cite. Art ou nature? Je dirais volontiers collaboration. Au lieu de s'exprimer dans une création ipséiste, l'esprit se retrouve dans la nature, s'y reconnaît. Nous exposons donc 13 photographies extraites de plusieurs séries, dont les noms sont Un matin sur le sable, D'une grève à l'autre, Géomorphose, Jeu d'herbe, Secret d'écorce. Voilà pour les expositions. Alors, à l'occasion de ces rencontres géopolitiques Kenneth White, nous allons faire deux annonces. La première va intervenir tout de suite. La deuxième sera faite à l'issue de la conférence de demain après-midi, Une habitation atlantique de Kenneth White. Première annonce, donc, c'est celle de la création du prix Marie-Claude White de traduction. Marie-Claude White est la traductrice des œuvres de Kenneth depuis 1979 et le recueil Mahamudra. Et c'est grâce à elle que sa poésie et ses webbooks nous sont accessibles en français. Kenneth a souvent loué le rôle de Marie-Claude autour de la table d'écriture. Ainsi, l'Institut créera le prix de traduction Marie-Claude White en 2024 et nous vous donnerons des informations complémentaires ultérieurement.